Bonjour, bienvenue à tous. Donc nous avons un titre, chef d'entreprise, humoriste, chercheur, et comme ils sont quatre, vous comprendrez qu'il en manque un. Pourquoi devenir écrivain ? Nous avons autour de nous, à cette table, des gens qui ont vécu plusieurs vies, qui ont fait des tas de choses, et puis qui, à un moment donné, ont décidé de se mettre à écrire, d'investir dans l'écriture, alors que, voilà, ils auraient tout à fait pu rester dans leur premier métier ou se contenter de leur métier. On va essayer de comprendre avec eux pourquoi ils ont eu cette démarche, ce que ça leur a apporté, en quoi c'était réjouissant. Et nous avons ici donc quatre personnes qui ont des parcours et des histoires de vie très différentes et très intéressantes. Donc, si je commence tout à gauche, je vais faire une présentation très rapide d'eux parce que justement on est là pour les faire parler. Gabriel Katz, je crois que ton premier métier officiellement on dit que tu étais un nègre. Donc maintenant tu es blanc, mais on se pose tous beaucoup de questions sur ce métier fascinant, d'autant plus que comme on doit le faire, c'est la déontologie de cette profession, on est très discret sur les auteurs au nom desquels on a parlé, on ne va pas t'interroger, mais apparemment ils sont nombreux, ils sont célèbres, et parler à la place des autres, je vais peut-être faire un petit tour de table avant de te repasser le micro pour dire un mot sur chacun, mais là je pense que vous avez déjà envie d'en apprendre davantage. Célig, alors, un Lyonnais né le 29 juin, comme moi, donc tout de suite nous avons des affinités. Célig, qui a commencé avec un premier métier de cuisinier, qui a continué comme humoriste, on l'a vu dans les cabarets de Lyon, on l'a vu sur scène, un homme de spectacle, et un chroniqueur aussi. Voilà, qui un jour décide de devenir un auteur. Mais bon, voilà, c'est une nouvelle étape dans un parcours qui a déjà été plein de surprises et de mouvements. À ma droite, Jean-Michel Truong, enfin quelqu'un de sérieux. Enfin bon, en gros, nous avons à gauche et à droite. À droite, il y a deux personnes extrêmement sérieuses, mais j'espère bien qu'elles nous diront des choses spontanées et surprenantes. Je ne m'inquiète pas. Donc Jean-Michel Truong, spécialiste des sciences cognitives et de l'intelligence artificielle, qui a créé la société Cognitech, qui a été un des grands fondateurs du domaine à tel point qu'il a déposé le mot cognition, cognitique, qui est un mot très répandu maintenant. Et qui alors que sa société marche très bien, qu'il travaille avec des informaticiens, avec des chercheurs en sciences cognitives, avec des psychologues, avec toutes sortes de gens passionnants, décide un jour d'écrire des romans, et des romans mémorables, que vous connaissez sûrement, mais on va commencer par la première vie et par le basculement vers la carrière d'auteur. Et enfin, Raphaël Granier de Cassagnac, encore quelqu'un d'extrêmement sérieux. Alors là, je vais rechercher mes notes parce qu'il y a des choses que je suis incapable de dire sans avoir des notes sous les yeux. Raphaël a passé une thèse sur l'asymétrie matière-antimatière et a fait, je vous passe quelques étapes, mais a fait un séjour à New York pour collaborer à l'expérience Phoenix qui étudie le plasma des quarks et des gluons. Et a travaillé ensuite sur la collision des ions lourds. Donc vous aurez compris qu'on a affaire à un chercheur extrêmement sérieux en physique nucléaire, en physique quantique, qui fait des drôles de choses à côté, qui écrit bien évidemment, mais qui dirige aussi une collection, la collection Ourobor chez Mnemos, qui a écrit des nouvelles de fantasy, qui a fait des scénarios de jeux de rôle, enfin bon, qui a plongé dans l'univers littéraire d'un tas de manières saugrenues et étonnante. Alors, on va leur faire raconter ça et on va peut-être repartir avec toi, Gabriel, si tu veux bien.
Je suis un lapin, ça marche bien. Ouais. Pardon. Oui, alors je me sens super intimidé parce que là-bas, c'est la fusion des ions de quelque chose, etc. Et moi, j'écris des bouquins pour les os, donc c'est pas, voilà, c'est pas du tout pareil. Qu'est-ce qu'il faut qu'on raconte? C'est comment on passe de l'un à l'autre? À l'origine, je faisais un vrai métier, il y a longtemps. Il y a très très longtemps, je faisais un vrai métier. J'étais chef de projet dans une boîte d'informatique. Je m'ennuyais beaucoup, je faisais de l'argent. Et un beau jour, on m'a proposé d'écrire un bouquin pour quelqu'un d'autre parce que j'étais quand même littéraire. Et on m'a demandé de prendre une décision en 24 heures. Ce qui était un petit peu bizarre pour quelqu'un qui était cadre et qui avait déjà en dirigé tout ça. Donc j'ai pas dormi. Au bout de 24 heures, je suis allé voir cette personne qui était numéro 2 d'une grosse maison d'édition. Je lui ai dit, bon, allez, banco, je suis célibataire, j'ai le temps. J'étais célibataire et j'avais le temps. Donc voilà. Et je me suis retrouvé nègre vraiment du jour au lendemain. Alors j'ai très mal gagné ma vie pendant très longtemps, mais je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup amusé. Et petit à petit, on commence à en vivre un petit peu. Alors le principe, c'est, bon, je crois que tout le monde le sait, hein, le principe d'un nègre, c'est vraiment écrire des bouquins pour les autres. En début de carrière, on écrit des bouquins pour ce qu'on vous donne, c'est-à-dire un politicien, un sportif, des gens connus, c'est assez dramatique. Et quand on commence à prendre un peu de bouteille, un peu de métier, on écrit pour les autres, pour les romanciers en fait. Pour les gens qui ont écrit un roman ou deux, qui cartonnent, qui n'arrivent pas à en écrire d'autres, ce qui est assez commun. Et comme l'éditeur leur a mis un très très gros chèque sur la table et qu'ils l'ont déjà touché, ben on prend un professionnel pour écrire à leur place. Donc voilà.
Oui, donc c'était déjà une troisième étape. Moi, j'ignorais totalement la première. Je suis désolée, mais elle est absente des biographies
Oh,
habituelles.
la première est vieille, elle n'a pas beaucoup d'importance. Il y a presque, je sais pas, je dois avoir entre 12 et 15 ans de négritude, donc c'est quand même
Oui,
assez
mais
vieux.
il y a eu d'autres, un autre métier avant.
Il y a un autre métier avant, oui, qui n'est pas très très important pour le coup. Et la négritude, c'est à la fois une découverte de la technique littéraire, parce qu'il faut essayer de se fondre dans la peau de la personne qui parle. C'est-à-dire que le premier livre que j'ai écrit, par exemple, j'en étais tout content, j'ai travaillé jour et nuit pour faire le bouquin, et je suis allé voir l'éditeur, et il m'a dit, mais t'as rien compris du tout, en fait, c'est beaucoup trop écrit. Regarde ses émissions télé, comprends son esprit, refais le livre. Bon, j'ai été obligé de l'écrire, voilà. Il faut se mettre dans les pompes de la personne qui parle. Donc, c'est à la fois très amusant et à la fois un petit peu glissant. C'est un coup à prendre. Pas monopoliser la parole non plus.
Oui, bon, on peut prendre une question tout de suite.
Oui.
Normalement, c'est plutôt après. Mais...
Scénario, c'est-à-dire la structure du bouquin, c'est super variable. Ça va en fait de la personne qui a une idée et dont pitch simplement l'idée en disant il veut un bouquin sur telle chose, auquel cas on lui prend le bouquin. Honnêtement, la négritude, c'est un travail entre le nègre et l'éditeur. L'auteur, il est à côté et son rôle, l'auteur en général, c'est toucher son chèque, qui est sympa parce que c'est des gros chèques, contrairement à ce que touche le nègre. Certains arrivent avec des livres déjà faits qu'il faut réécrire. C'est la super catastrophe parce que là, c'est horrible. Parce que le type a beaucoup d'ego, forcément. Et il écrit un bouquin qui doit être réécrit, donc c'est atroce. Donc c'est des combats avec l'éditeur. Il y a des gens qui n'ont rien, il y a des gens qui ont un peu, il y a des gens que je vais voir avec qui je déjeune 50 fois pour essayer de grappiller le maximum d'informations. Il y en a qui ont honte, donc ils refusent de voir le nègre. Donc il y a vraiment de tout.
On va continuer avec Selig. Alors. Et le micro qui marche.
Et le micro qui marche, oui. Bah,
Alors,
nous,
c'était
les
des...
comiques, c'est pareil, hein, on écrit pour des comiques qui sont connus mais qui ne sont pas drôles. Donc on leur fait des sketchs aussi, voilà, ça marche aussi comme ça chez les humoristes. Et donc, pour la partie commune de travail d'écriture, ils font exactement la même chose. Ils vont demander, quand ils demandent, hein, parce que des fois ils ne demandent pas, ils prennent directement. Et là, c'est beaucoup plus complexe parce que c'est des idées, c'est très complexe à protéger. Et donc, oui, moi, j'ai passé de cuisinier, mais il y a super longtemps, à humoriste, il y a plus de 20 ans maintenant. C'était de la cuisine lyonnaise. C'est riche, faut faire gaffe. Quenelle,
C'est
tablier de
généreux.
sapeur, andouillette, bref. Et donc, après, oui, j'ai basculé humoriste et je me suis rendu compte que l'humour, les sketchs, le rire, si on peut rentrer dans le domaine de la physique quantique, le rire, c'est quelque chose de, j'allais dire, c'est même métaphysique, c'est diabolique. Et ça m'a plu de faire des one-man shows et de transmettre le rire le mieux possible à travers des histoires, à travers des sketchs sur la vie de tous les jours. Et puis, j'en suis venu au roman après plus de 20 ans de scène. Parce que j'avais envie de développer certains personnages que j'écrivais dans un sketch plus longuement dans un roman. Un sketch, c'est un concentré d'un roman. Un sketch, c'est 7 pages. C'est 200 pages réduites en 7 pages. Un sketch, c'est chaque phrase, ça doit faire mouche. Chaque phrase, ça doit faire rire. Donc voilà. Et après, j'avais pas le temps de... Plus que ça, on peut pas s'étaler dans un sketch. Donc, d'où l'idée de me mettre à écrire des romans avec les personnages de mes spectacles. Voilà. Donc les gens qui viennent au spectacle découvrent après dans les romans plus longuement mes personnages que j'utilise dans mes one-man shows.
Oui, il y a une continuité. La continuité, il y en a aussi du côté de Jean-Michel Truong, hein, puisque a priori, réfléchir sur ce qu'est une intelligence artificielle, comment elle pense, voilà, ça peut, comment on a envie de mettre ça en roman ensuite.
Alors, en fait, j'ai pas eu envie, ça s'est passé comme ça. J'avais créé avec deux amis chercheurs dans les années 80 Cognitech, la première société en Europe d'intelligence artificielle. Nous étions deux sociétés dans le monde. Il y avait Technoledge en Californie et il y avait nous en France. Et on s'est partagé le marché mondial à deux sociétés pendant presque 6 ans. Et au bout de 6 ans, nous étions devenus très désirables pour les investisseurs et en particulier pour les grosses boîtes de haute technologie. Et nous avons décidé avec mes associés qu'il était temps de céder la société à un consortium mené par Paribas où il y avait le commissaire énergie atomique et Framatome. Voilà, on nous a racheté cette société, cette start-up hein, qui au moment où nous la vendions devait faire 250 ingénieurs. Hein. On était l'endroit de Paris où il y avait le plus de polytechniciens en dehors de Polytechnique elle-même. Voilà. Voilà comment les choses se sont passées. J'en viens au roman. Ces gens-là, évidemment, n'avaient pas, qui venaient de nous donner un gros tas de noisettes, n'avaient pas du tout envie de nous voir créer une société à côté. Et rien n'aurait été plus facile pour mes deux associés et moi. Donc, ils nous ont fait signer un gros contrat de non-concurrence. Pendant 3 ans, nous n'avions pas le droit de faire de l'intelligence artificielle. Et donc, je me suis trouvé, j'avais donc voilà deux choses. D'une part, un gros tas de noisettes et d'autre part, 3 années d'oisiveté forcée. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire et j'ai donc décidé d'écrire un roman. Je voulais d'abord que ça soit un roman sur l'intelligence artificielle et ça n'est... Très vite, j'en ai été détourné, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que je craignais les avocats du commissaire à l'énergie atomique. Donc j'ai écrit un roman sur le clonage humain. Parce qu'après tout, l'intelligence artificielle, c'est jamais qu'un projet de cloner l'esprit humain. Je pouvais parler de ce que j'avais cru comprendre de l'intelligence artificielle en transposant dans le domaine du clonage du corps humain. Hein, corps humain, esprit humain. Bon. Donc j'ai écrit « Reproduction interdite ». Et puis les 3 ans sont passés... j'ai pu recommencer à faire de l'intelligence artificielle. J'ai décidé, au grand bonheur du CEA et de Framatome, d'aller faire de l'intelligence artificielle ailleurs. Je me suis installé en Chine, d'où je reviens maintenant après 25 ans de séjour ininterrompu. Où j'ai donc créé une société qui a travaillé dans des domaines tels que l'aéronautique, l'espace, les télécoms. Et alors, là où peut-être on diffère avec mes collègues ici, c'est que je ne suis pas entré en littérature comme on entre en religion. Hein, c'est-à-dire, une fois qu'on a pris l'habit de l'écrivain, on n'en sort plus. En fait, pour moi, ça a été une activité, et c'est toujours une activité alternative. C'est-à-dire, voilà, j'ai créé cette première société avec le tas de noisettes Framatome. J'ai travaillé ensuite en Chine pour France Télécom. Au bout de quelques années, France Télécom était très contente de ce que j'avais fait pour elle. M'a donné un autre gros tas de noisettes. Et je me suis de nouveau arrêté pour prendre 2 années sabbatiques. Et là, j'ai écrit le successeur de Pierre. Et donc, en fait, à chacun de mes bouquins, je pourrais mettre le nom du fournisseur de noisettes. Il y a eu successivement donc, les deux que j'ai déjà notés, et puis ensuite il y a eu Airbus, et puis pour finir il y a eu une grande banque que je ne nommerai pas, que j'ai aidé à faire du business là-bas, et qui chaque fois m'ont donné de quoi avoir le luxe, parce que j'ai un défaut, c'est que je pense difficilement, j'ai une activité intellectuelle très lente, et donc je ne peux pas faire deux choses à la fois. Donc beaucoup de mes collègues, par exemple les professeurs, enseignent et écrivent, trouvent le moyen d'écrire en plus, et écrivent de très bonnes choses. J'en suis totalement incapable, il faut que je m'arrête, il faut que je ne fasse qu'une chose. Donc ce système m'a permis de... Ce système par intermittence, voilà, je suis un intermittent de la littérature.
On va prendre un vocabulaire d'informaticien. Alors, toi, Raphaël, tu fais du temps partagé, tu n'es pas monotâche?
Non, moi, je partage mon temps. Je peux vous dire, je me suis levé à 6h du matin ce matin pour faire mon premier métier jusqu'à 14h, jusqu'à 13h, je suis venu ici après. Donc, moi, c'est encore un peu différent, mais c'est intéressant les différentes approches. Moi, je suis venu à l'écriture plutôt par le hobby, en fait, et par le jeu de rôle. Ça a commencé comme ça en 2000, en gros, et même un peu avant, où je faisais beaucoup de jeux de rôle. Évidemment, j'écrivais mes scénarios et des choses comme ça. Et puis, je commençais à faire ça de façon un tout petit peu plus professionnelle, en contact avec des éditeurs. Et j'avais pas écrit une ligne romanesque à ce moment-là. Et donc il se trouve que pour un projet de jeu de rôle que j'avais avec des gens, je m'embêtais à un Noël chez ma grand-mère. Je commençais à écrire une petite histoire. Je voulais raconter le setting, le décor. Et puis c'était plus intéressant de le raconter avec une petite histoire. J'écris la petite histoire, elle se développe, ça fait à la fin une petite nouvelle. Je l'envoie à mes collègues avec qui je travaille sur ce jeu de rôle. Et se trouvait parmi eux Mathieu Gabory, que vous connaissez peut-être, qui était en train d'exploser. Il publiait roman sur roman, année sur année. Et il me dit, écoute, c'est pas mal ce que tu écris. Tu devrais peut-être répondre à des appels à texte. Je réponds à mon premier appel à texte. Ma première nouvelle est acceptée. Gros coup de bol. Deuxième appel à texte, pareil. Donc voilà, c'est vraiment par le hobby, comme ça. Puis sans vraiment calculer, sans vraie volonté forte de faire de l'écriture... sérieusement. Et puis après ça, et j'écrivais de la fantaisie, donc le plus loin possible de mon métier. J'étais en train de passer ma thèse à peu près en même temps, en 2000. Donc j'étais à fond dans mon histoire de matière antimatière.
Dans les quarks et les gluons.
Matière antimatière, ouais. Et donc thèse très expérimentale au CERN, tout ça. Et donc j'étais vraiment. Alors la fantaisie, c'était dans les littératures de l'imaginaire, je pense, le truc le plus éloigné que je pouvais trouver de mon quotidien. Donc, et c'était fait exprès. Donc c'était vraiment le passe-temps pour s'évader, pour faire autre chose, quoi. Et puis le temps passe, j'écris des bricoles, ça marche pas très bien en fait. Et puis peu de fil en aiguille, parce qu'une nouvelle que j'avais écrite, les gens me disaient tu devrais faire autre chose avec, tu devrais développer l'univers, l'attaquer autrement et tout ça. Et donc à mes heures perdues, alors vraiment à mes heures perdues pour le coup, je commençais à écrire un roman, c'est celui-là. Là, et voilà, et je me retourne, j'ai pris presque 10 ans je crois à l'écrire, enfin non, un peu moins mais pas beaucoup moins. Et puis à la fin, voilà, je l'avais, je le propose aux éditeurs que je connaissais un petit peu par les jeux de rôle et par les nouvelles, et puis il a été pris. Et donc en partant, ce qui est intéressant, c'est qu'en partant de la fin, je ne sais pas si c'est intéressant, vous me direz, en partant de la fantaisie, petit à petit avec l'écriture, finalement mon deuxième, il parle énormément de science, alors pas de ma science à moi, il n'y a pas de physique de particules dedans, mais ça parle de clonage, d'intelligence artificielle, et de la sociologie de la science, mes personnages sont scientifiques tous les deux. Et donc surtout, je raconte beaucoup l'interaction entre chercheurs, les conférences, les thèses. Il y a ma soutenance de thèse dedans d'ailleurs. Et donc voilà. Mais c'était pas l'intention initiale. L'intention initiale, c'était vraiment me faire plaisir, m'évader, faire autre chose. À la fin, ça me rattrape un petit peu. Et mon dernier bouquin est en fait assez lié, je pense, avec mon vrai métier.
Mais on parlait de fantasy. Gabriel, justement, a plongé vers la fantasy. Il est temps de commencer à parler un petit peu de leurs œuvres littéraires. Pardon. Donc, Gabriel Katz a écrit une saga de fantasy extrêmement drôle, qui d'ailleurs lui a valu des prix. Le Puits de mémoire a eu le prix Imaginal en 2013, le prix des Aliénales en 2014, et maintenant une nouvelle trilogie.
Le prix des Aliénales, c'est pour La Maîtresse de Guerre qui a suivi, me semble.
Oui, enfin, c'est dans la même trilogie.
C'est un one-shot qui a suivi la trilogie.
D'accord. Donc il n'y a pas que des trilogies, mais est-ce que c'est...
Il n'y a pas que des trilogies, non.
Est-ce que c'est un nouveau métier, un changement de cap définitif, parce métier, que c'est une belle entrée, en tout cas.
Le métier qui me nourrit, en fait, c'est pas réellement... C'est un peu celui-là, surtout là, de plus en plus, mais mon vrai métier, c'est scénariste, donc j'écris des choses très, très inavouables pour TF1, tout ça, tout ça. Non, non, c'est pas toujours de très bonne qualité, mais c'est les trucs que vous pouvez voir. Et que qui plaisent à ce que TF1 appelle la ménagère. Donc voilà. Sinon, non, la fantasy, ça a été mon envie d'écrire pour moi au bout de quelques longues années de négritude. Du coup, je me suis cru malin, je suis allé voir les gens avec qui je bossais. Forcément, j'étais très bien avec eux, tout ça, et c'est des grosses maisons. C'est les Albin, Plon, Gallimard, machin, enfin, les gens pour qui on bosse quand on fait de la négritude. Et je leur ai dit « Fantasy ». Bon, ils n'ont pas du tout aimé, en fait. Ils m'ont dit « Non, non, ça, c'est un genre salissant, tu vas te salir, tu vas te ridiculiser, etc. » Ok, je vais me ridiculiser. Tous ces gens téléchargent Game of Thrones toutes les semaines. Donc, je ne sais pas pourquoi. Game of Thrones, c'est fréquentable. La fantasy française, c'est ignoble. Donc, je suis allé voir Screenéo, qui m'a été conseillé par un pote qui était scénariste, justement. Et je me suis dit « Oh là là, petite maison. » Et en fait, ça a vachement bien marché. Mais c'était vraiment ça, c'était le plaisir de faire quelque chose de complètement imaginaire, complètement libre, où il n'y a pas un éditeur derrière et un responsable des ventes qui vous dit « Bon, alors lui, si on n'en fait pas 400 000, on est mort. » Donc, où on joue sur l'écrivain, on joue sur la célébrité, etc., etc. Là, non, c'est juste faire le bouquin qui fait plaisir, donc voilà. Je croyais en faire une danseuse pure et dure. C'est-à-dire, bon, voilà, je fais mes scénarios, ça me fait manger, et un petit bouquin de fantasy que personne ne lira à part ma famille et mes potes. Et en fait, non, ça marche bien. Donc, plus ça va, plus je glisse vers le bouquin. J'en ai re-signé un autre qui va sortir au masque en octobre. Il n'y a rien à voir, qui est un thriller. Et encore un en fantasy qui sort en septembre aussi. Donc voilà. Alors, l'avantage quand on a été nègre, c'est qu'on écrit vite. Donc, j'écris un bouquin, je ne sais pas, 2 mois, 3 mois. Donc, ça permet quand même de produire. Et de faire cohabiter avec, entre guillemets, mon vrai métier qui, lui, prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps.
On est tous bouche bée devant un roman en 2 mois.
Non, c'est vraiment une question d'habitude. Au début, j'ai sué sang et eau, c'était épouvantable. Je pleurais sur mes bouquins en disant « c'est juste pas possible, il faut 250 pages de creux, de vide en plus ».
On pleure pas en les lisant.
Non, cela peut-être pas. Mais le problème, c'est qu'au tout début de la négritude, vous avez en général, il y a des rendez-vous qui se font, soit dans un café, soit dans un resto, avec la star, entre guillemets. L'avantage, c'est qu'on mange bien, parce que comme c'est des gens à qui l'éditeur paye de très très bons restos, vous avez au moins 3 étoiles pour discuter avec lui. Mais le principe, c'est qu'après, avec les quelques informations totalement inintéressantes qu'il vous a données, il faut faire un livre. Donc c'est affreux. Et le jour où vous faites le vôtre, c'est super, parce que vous savez quoi mettre dedans, parce qu'a priori, c'est votre idée. Donc c'est quand même très très gros soulagement.
Et alors, Céline, toi, les personnages et les idées, tu les avais déjà, puisque tu nous disais que c'est parti des sketchs et du spectacle.
Déjà, ça fait donc plus de 20 ans que je fais du one-man show. Je suis sorti des cabarets lyonnais, parce que j'en suis à faire les Folies Bergères, l'Olympia, les Zénith. Enfin, voilà, c'est devenu... Donc, c'est mon vrai travail à plein temps, j'allais dire. Le roman, ça ne me fait pas manger, comme disait mon collègue. C'est parce que j'ai... Ouais, voilà, au bout d'un moment, parce que ça marche bien aussi, parce que moi aussi, c'était pour contourner les systèmes déjà établis des éditeurs, des gros éditeurs qui donnent des voilà, qui parlent comme ça, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Là, je peux faire ce que je veux avec chez Rivière Blanche, on est en bonne entente, on est dans des circuits différents. J'ai un circuit distribution par mes spectacles, parce que quand on fait des salles de 1500 à 4000 personnes, bah forcément, on touche des milliers de personnes et on peut distribuer directement aux gens qui aiment votre travail. C'est contourner encore une fois le système qui est important. Pas forcément rentrer dans ce qu'on doit faire, ce qu'on doit dire, ce qu'on doit pas dire. Malheureusement, c'est comme ça dans beaucoup de domaines artistiques en France. Mais encore une fois, j'ai pas fait ça pour gagner de l'argent. Parce que
les noisettes, non, ouais, c'était non, pas
c'est
là.
Pas, voilà, c'est pas ça. C'est pas le truc... Mais peut-être qu'au bout d'un moment, oui, effectivement, oui, ça peut le devenir. Mais au début, c'est pas le truc, quoi.
On n'a pas parlé des livres qu'écrit Céline. Ils sont chez Rivière Blanche.
Oui.
Le premier s'appelle Pour une poignée de Kumlak.
Ouais,
et le second, Des clones et des Kumlak.
Voilà, c'est une monnaie qui n'a pas cours sur Terre.
Oui.
Une qui a cours ailleurs, mais pas là, quoi. Voilà.
C'est un peu l'équivalent de la noisette, mais
c'est plus fort quand même. Pour une noisette, peut-être, il faut 0,03 cum laude.
On aura appris des choses ici.
Mais on ne va pas parler d'argent.
On ne parle pas d'argent.
On ne parle pas d'argent, on parle de noisette et de cum laude. C'est un space opéra. Le thème, c'est pourquoi devenir écrivain. Donc déjà, c'était pourquoi écrire, finalement. Moi, c'est pour transmettre ce que je transmets déjà sur scène, de la bonne humeur, du rire. Et ben, je voulais transmettre aussi par écrit, même si c'est pas sérieux. On m'a dit, mais quelle horreur. Déjà, la science-fiction, c'est pas sérieux, mais drôle. Alors là, mais ils m'ont carrément frappé. Ils m'ont frappé. Donc voilà, mais... Voilà, grâce à plein de gens, grâce à des éditeurs indépendants, on peut arriver à ses fins quand même en France, à faire plein de choses, et on n'est pas obligé de passer par ces grosses majors qui sont dictateurs.
Mais bon, j'imagine que quand on fait beaucoup d'impro, quand on fait du spectacle, il y a toujours
Il n'y a pas de questions
à poser. Parce que j'allais dire, c'est dans un livre, ça ne bouge plus.
Non, bah dans un one-man show, ça ne bouge jamais. C'est au scalpel, c'est à la phrase, à la seconde. Mais sinon, c'est impossible. On ne peut pas faire un one-man show ou un sketch si on commence à partir en live. On intervient dans un one-man show quand il se passe quelque chose dans la salle. Un événement. Là, on sort du texte et on va chercher ce qui se passe. Parce qu'on ne peut pas laisser un événement tout seul, mais sinon un one man show, vous pouvez le voir le jeudi, le vendredi, le samedi, à 99,9% il sera pareil, parce que ça a été écrit comme ça, comme un roman. C'est vraiment de la chirurgie des mots, ça peut pas être autrement. Ça rigole comme ça, on intervertit 3-4 mots, ça rigole plus. C'est contrairement à un one man show, il faut en moyenne un an et demi pour l'écrire, pour 1h30 à 1h40 de one man show, il faut ça. Donc, par exemple, on ne peut pas écrire un one-man show en 2 mois. Ou alors on fait de la blague à Toto. Voilà. Et même des nègres dans le one-man show. Moi, j'écris pour d'autres humoristes. Hein, et ça prend plus de temps. Et on est moins payé, on mange moins bien. Et en plus, ils ne citent pas notre nom. Donc. Mais voilà, ça se rejoint. C'est le même job. Donc voilà. Et pourquoi écrire pour encore une fois, pour transmettre des choses qu'on a à transmettre, peut-être.
On prolonge le même plaisir.
Voilà.
Jean-Michel, donc on a commencé à parler de Reproduction interdite, qui était sortie en 88. On n'a pas cité Totalement inhumaine. Un de ceux qui a beaucoup marqué les esprits était Le successeur de Pierre. En gros, des avenirs assez sombres, des réflexions sur l'avenir de l'humanité, éventuellement ce qui se passera après l'humanité, une vision transhumaine assez inquiétante. Alors, où est le plaisir quand on est dans la réalité des projets utopiques des intelligences artificielles, à explorer littérairement la face sombre de l'avenir.
Oui, c'est le plaisir que prend le sadique à titiller, à faire souffrir, à faire crier, à faire pleurer. Il y a de ça. C'est Sloterdijk, Peter Sloterdijk, le philosophe allemand, qui écrit ça dans je ne sais plus quel bouquin, les Freud, les Marx, etc., tous ces prophètes qui révèlent les travers cachés de l'humanité sont au fond, exercent, et je mets dans la même catégorie les auteurs de science-fiction qui exploitent cette veine-là, et donnent libre cours à leur sadisme, ni plus ni moins, et au plaisir aussi d'être celui qui a été le premier ou parmi les premiers à mettre en garde. Hein. Je vous l'avais bien dit, voilà, d'avoir été le premier à avoir raison. Bon, plus sérieusement, le plaisir que j'y prends, d'abord c'est le plaisir d'écrire, tout simplement. Hein. Une copine écrivain très, très célèbre m'a demandé un jour, mais un peu le même genre de question, quel plaisir tu y prends à écrire, et alors elle me sort une scène de Reproduction interdite où je décris la mort de la femme, la mort atroce bien sûr, de la femme du héros, Et j'ai dit, mais écoute, moi, elle me dit, j'ai pleuré, etc. Enfin, manifestement, elle s'était identifiée à la femme en question que je martyrisais dans ces quelques pages. Et je lui ai dit, mais tu sais, moi, ça s'est passé dans ma maison des Pyrénées, et j'ai passé une nuit. Le lendemain matin, mes voisins demandaient, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une agression chez toi, etc. On entendait des cris, on entendait. C'était moi qui, en fait, éclatais de rire, ou en me disant, en trouvant une nouvelle idée pour rendre la chose encore plus atroce, la souffrance de mon agonisante encore plus horrible. Mais bon, c'est le plaisir de l'écrivain, c'est le plaisir de celui qui écrit, et de l'effet qu'il soupçonne qu'il va créer chez le lecteur ou la lectrice. Hein, les uns et les autres, vous n'êtes jamais absents quand nous sommes sur nos Mac ou ceux qui encore écrivent à la plume. Vous êtes dans ce concert et on réfléchit, on ourdit un complot contre vos affects, vos sentiments, vos émotions. Donc c'est ça le plaisir. Donc il y a un peu de tout ça. Même si, bien sûr, on a aussi, j'ai été très heureux, par exemple, mon essai Totalement Inhumaine a été édité pour la première fois, ça c'est la réédition, par une... Merci. Je vous le recommande, hein. Bien sûr. Par une boîte qui s'appelait, je ne sais pas si vous vous souvenez, Les Empêcheurs de Penser en Rond, qui a été rachetée par Le Seuil, et ça à cause de ça, ça s'est cassé la gueule, alors que ça marchait très bien aussi longtemps que c'était une boîte indépendante. Et je trouve que c'est ça aussi ce qu'on essaye de faire. C'est déstabiliser le lecteur. On veut créer des émotions chez lui, un peu manipuler, on est un peu des ingénieurs des émotions, d'accord, mais on cherche aussi à le déstabiliser dans son train-train intellectuel, dans sa, lui montrer qu'en se décalant un peu, on peut voir les choses différemment, etc. C'est pas une ambition extrême de prévoir un avenir, etc., etc. Par exemple, Eternity Express, je le disais ce matin, qui est ma façon de voir une solution à ma manière au problème du vieillissement des populations et du financement des retraites. Je me fiche complètement de savoir au fond ma méthode de les mettre tous dans un train pour les envoyer dans un enfer, dans une fournaise au fin fond du désert du Gobi, se réalisera ou non, d'accord. Mais je me dis que pendant ce voyage va venir chez mon lecteur, chemin faisant, des réflexions, des manières de voir différentes, décalées par rapport à la façon dont il voit. Et c'est une satisfaction aussi, comme celle bien sûr de vous faire souffrir en faisant agoniser.
Oui, d'ailleurs, Jean-Michel Truong n'a pas écrit que des romans. On n'a pas cité son dernier essai qui s'appelle « Reprendre », qui a quand même reçu le prix de l'impertinence 2013, qui confirme qu'il s'agit bien de théories et d'idées déstabilisantes et dérangeantes. Et ceux qui éventuellement te suivraient sur Facebook peuvent confirmer que tu aimes bien provoquer avec l'actualité et des témoignages aussi qu'on ne nous livre pas couramment. Raphaël, tu nous disais que tu avais commencé. Alors, on n'a pas cité les romans de Raphaël Granier de Cassagnac. Celui qui l'a fait connaître vraiment comme auteur et comme auteur de science-fiction, c'est Eternity Incorporated, qui est sorti en 2011. Oui, tu l'as ici. Et en 2014, Thinking Eternity, qui est une préquelle du premier, c'est-à-dire qui se situe avant, parce que c'est peut-être des mots un peu barbares quand on dit préquelle, on ne devrait pas. Et tu viens d'obtenir le prix du lundi, et c'est sans doute le début d'une belle carrière pour une œuvre littéraire intéressante, mais très art science. Tu nous disais, j'ai plongé vers la littérature, en gros, pour me faire des vacances et m'aérer la tête, donc j'ai fait de la fantasy. Et puis, en fait, petit à petit, tu es en train de faire non seulement de la science, mais de la art science. Par contre, pas dans ton domaine à toi. Alors, quel est le plaisir d'aller replonger dans une autre science et de le faire d'une manière approfondie? Est-ce que c'est, tu aimes la science, mais une autre te fait des vacances? Comment ça marche?
Non, je ne pense pas que ce soit ça. C'est, je ne me catégorise pas art science moi-même. Mais de toute façon, je déteste les catégories. Donc. Mais tu as raison, il y a des gens qui mettent ça là-dedans. Moi, pour moi, c'est, enfin, ce, les deux, c'est plutôt de l'anticipation. Et mon angle d'attaque, qui est, je pense, très commun à Jean-Michel, c'est de s'interroger sur ce qui va se passer demain. Pas après-demain, mais vraiment demain, très proche de nous, éventuellement de notre vivant, quoi, d'essayer de poser des questions qui nous concernent tous assez directement. Et donc ma science à moi, qui est la physique des particules hardcore, très 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 fondamentale, je ne peux pas moi, malgré le fait que je la fasse, je n'y vois pas moi d'application concrète de mon vivant, quoi. Et évidemment, c'est pas pour ça qu'il faut pas le faire, hein, au contraire. Non, mais au contraire, il faut vraiment repousser les frontières de la connaissance partout. Mais je vois pas. Il y a des auteurs qui le font, et c'est mieux s'ils font pas de physique des particules. Hein. Je me vois pas raconter une histoire basée sur la physique des particules, parce que d'abord je la trouverais fausse moi-même, je la trouverais pas crédible parce que j'en sais sûrement trop sur la physique des particules pour l'utiliser dans mes romans. Donc je pense que c'est pour ça que précisément je n'utilise pas de physique des particules du tout, et je me pose des questions qui sont des questions beaucoup plus d'actualité dans les sciences, qui sont beaucoup plus d'actualité, qui sont essentiellement les mêmes que Jean-Michel: le clonage, l'intelligence artificielle. Je me suis beaucoup intéressé aussi aux nouvelles formes de gouvernance. J'imagine dans Thinking Eternity que bientôt des grosses entreprises vont racheter des territoires aux États. Par exemple, on pourrait racheter la dette de la Grèce contre la Crète, pourquoi pas. Et donc une entreprise s'installerait dans un nouveau territoire et expérimenterait des nouvelles formes de gouvernance. Dans mon bouquin, j'ai un endroit qui s'appelle le Googland, je ne sais pas si vous imaginez d'où il vient. Et peu de temps après l'avoir écrit, j'ai eu la surprise d'entendre Larry Page, un des PDG de Google, déclarer qu'il souhaitait effectivement disposer d'espace pour expérimenter des nouvelles formes de gouvernement et de gestion des entreprises. Donc c'est plutôt ça mon angle d'attaque. C'est pas ce que je m'intéresse, parce que j'ai envie de vous parler à vous de choses qui vont nous concerner tous très très vite et qui sont déjà en train de nous concerner pour beaucoup. Que ma science passe derrière parce qu'elle n'a pas grand chose à voir avec notre avenir à court terme. À long terme, bien sûr, il se passera sans doute des choses, mais donc c'est vraiment pour ça que je me cantonne, que ma science est passée à la trappe. Ouais.
Ce qui est impressionnant, c'est qu'avec un métier aussi passionnant et aussi prenant, non seulement tu t'es lancé dans une carrière d'auteur, mais aussi tu as pris des responsabilités de directeur de collection. Ça, c'est un acte généreux, puisque c'est aussi l'occasion de faire travailler d'autres auteurs, de les faire travailler ensemble. C'est un gros investissement. Donc, si tu fais ça pour la littérature, tu fais ça pour les auteurs, tu fais ça pour le plaisir de la découverte littéraire.
Je fais ça pour m'amuser.
Travaille pour s'amuser, là, c'est clair.
Avant tout, ouais, c'est. Et par contre, c'est pour les noisettes, ça marche pas très bien, effectivement. Non, les bouquins collectifs, c'est pareil. Après, c'est des questions d'opportunité. Les deux premiers de la collection, j'ai écrit dedans aussi. Donc, j'ai dirigé les bouquins, mais je me suis fait mon plaisir d'écrivain aussi. Donc, c'est un Abîme et Kadat. Il y en a un autre qui est sorti derrière qui s'appelle Un an dans les airs. C'est pareil, à chaque fois, c'est des bouquins dans lesquels j'écris moi-même un quart. Donc, bon, oui, c'est généreux, je fais bosser d'autres, mais je me fais bosser aussi moi-même. Et il y a mon nom sur la couverture à la fin quand même. les autres dans lesquels j'ai pas participé directement, l'édition est en général assez légère. C'est pas forcément moi qui l'a fait d'ailleurs chez Mnemos. Hein, il y a d'autres gens qui ont dirigé d'autres ouvrages de la collection. Donc, c'est pas si généreux que ça, je dirais. Non, mais si, c'est une collection que moi je trouve fantastique, il se passe plein de choses. On en est à 10 ouvrages, là, on en a deux dans les. D'ailleurs, il y en a un que je ne fais que éditer en ce moment. C'est la première fois que je suis généreux dans ta définition. Et où je. Mais voilà, en gros, c'est avant tout pour me faire plaisir à moi. J'ai pas le temps d'être généreux.
Alors, il y a quelque chose qui est génial avec eux quatre, j'imagine que ça vous fait rêver aussi, c'est qu'ils ont trouvé moyen de mettre plusieurs vies différentes dans leur vie. Soit ils les ont mises à tour de rôle, soit ils les mettent en même temps. Mais il est clair qu'ils mènent plein de vies différentes. Vous avez envie d'en rajouter encore? de vous lancer dans la musique, dans le cinéma, dans je ne sais pas, mais...
Ouais.
Et quoi ?
Cinéma. Cinéma, même si l'économie du cinéma me désespère, mais...
Il n'y a pas de noisettes non plus.
Alors, ce point de vue-là, je viens de signer un film de ciné il y a quelques mois de ça, et j'étais hyper content, parce que je suis un scénariste ciné quand même, c'est extraordinaire, etc. On a travaillé comme des malades mentaux pendant 6 mois, et au bout de 6 mois, le contrat est signé, on avait tout, absolument tout, c'était merveilleux, c'était fantastique, et c'est même un film fantastique justement. Et au tout dernier moment, on s'est aperçu que le producteur ne réussissait pas à réunir les fonds pour monter le projet. Donc, il nous a appelé en disant « Ouais, vous savez quoi, vous allez rire. » Donc, on va vachement rigoler. On a travaillé 6 mois, mais comme des malades. Et je pense qu'on va toucher peut-être 200 ou 300 euros, qui est le tarif de la signature du contrat. Donc, c'est bien le cinéma, mais c'est un petit peu difficile.
Ah ouais, moi, j'ai une meilleure expérience que toi, alors.
Ah bah, ça va, c'est mieux.
Moi, j'ai été appelé pour faire une adaptation d'un truc avec un contenu scientifique assez fort. Donc, c'était ma première expérience. Et je crois qu'ils m'ont payé 2000 euros pour la proto-adaptation, qui était genre 10 jours de boulot. Donc pour moi, c'était par rapport à mes bouquins, je gagne, ça fait plus que, enfin, à peu près pareil que ce que je gagne avec un bouquin comme ça. Vous voyez, donc pour, en 10 jours, 10 ans, 10 jours. Et par contre, super déçu parce que voilà, derrière, même conclusion derrière, mais avec un peu plus de noisettes. voilà, bah c'est fini quoi, c'est le truc, non, c'était un superbe projet, j'aurais passé ma vie là-dedans, c'était vraiment très 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 intéressant, mais l'économie du cinéma étant ce qu'elle est, bah non, ça se fera jamais quoi.
Moi j'ai tourné dans le film de Bernard Werber, Nos Amis les Terriens, j'ai un des rôles principaux du film, donc j'ai une belle expérience de tournage d'un film absolument un ovni dans le cinéma, mais c'était quand même une expérience cinématographique, ouais. Qui était très intéressant puisque c'était en plus ça concernait la science-fiction, etc. Donc ouais, ça s'est bien passé, j'ai été jusqu'au bout du truc. Mais c'est vrai que dans les milieux artistiques, pour les gens qui ne savent pas, pour 100 projets, il y en a 2 qui fonctionnent et le reste passe à la trappe quoi. Ça c'est une réalité, une triste réalité dans le monde du spectacle ou du cinéma. Il y a même des films qui sont tournés, montés, qui ne sont jamais diffusés. Donc c'est encore pire parce que là c'est des pertes sèches pour tout le monde quoi. Donc voilà, donc plein de vie encore. Sinon, j'étais cordonnier, j'ai fait quoi encore ? J'ai fait des crêpes, enfin, j'ai joué dans H, voilà, pour ceux qui connaissent H, voilà, j'ai fait plein de trucs, on fait plein de métiers, quoi, voilà. Mais j'ai pas de diplôme, j'ai un CAP de cuisine, quoi, voilà. La physique des particules de cuisine, quoi.
Ah ben ça existe maintenant, la cuisine, comment ça s'appelle, cryogénique
quoi, moléculaire.
Moléculaire, oui.
C'est Thierry Marx qui fait ça. Si on est nègre, on le connaît en fait. On va chez lui pour manger.
Jean-Michel, une nouvelle vie, des nouveaux projets ?
Oui, alors d'abord, dans mon ancienne vie, j'ai eu quelques attouchements d'antenne avec le cinéma aussi. Le premier, c'est quand j'avais donné le manuscrit de Reproduction interdite. Donc l'ouvrage financé par le commissaire à l'énergie atomique, comme vous savez, je l'avais donné à Orban, et qui m'appelle complètement excité un soir très tard en me disant « Jean-Michel, je viens de vendre les droits cinématographiques, les avais vendus à Benex. » Benex avait à l'époque signé 37.2 le matin, je crois, enfin c'était à l'époque l'étoile montante du cinéma. Je vous parle d'un temps que... Vous êtes tous trop jeunes. Et donc, nous lui avons vendu les droits pour plus qu'une poignée de noisettes, pour le coup, il y a donc très longtemps. Et il n'en a jamais rien fait. Il n'en a jamais rien fait, alors qu'il a payé la peau des fesses, c'est le cas de le dire. Hein. Et donc, j'ai récupéré ces droits récemment et je les ai revendus. En fait, je me suis rendu compte qu'un auteur, s'il se débrouille bien, peut vivre simplement en vendant des options sur ses œuvres et les récupérer. Et je les ai revendus très très bien à Gallimard. Voilà. Et récemment, j'ai également vendu... j'ai vendu également des options à un autre producteur, c'est Forge Animation. Je ne sais pas si vous avez entendu. Il prépare l'adaptation à la fois dessin animé et jeu de Damasio. Voilà, les contrevents. Ah, bravo, ils veulent m'acheter. Et donc, ils m'ont acheté les droits, une option sur les droits du successeur de Pierre. Et puis, je me suis dit, ah, putain, c'est fantastique. Et puis, un an après, ça n'a pas duré 30 ans comme avec Benex. Et ils m'appellent en disant, Jean-Michel, désolé, mais on prend un peu de retard sur... est-ce que tu acceptes? Comme j'avais été échaudé par Benex, j'avais pris des précautions, je leur avais donné l'option pour 18 mois. J'aurais donné 18 mois pour entrer en production où je récupérais mes droits. Et donc, au bout d'un an, ils ont dit non, on ne pourra pas, donc on préfère rentrer. Et donc, ils m'ont rendu mes droits, mais là aussi, j'ai gagné quelques noisettes, simplement en vendant une option. Voilà. Et j'ai revendu les droits à Gallimard aussi, qui m'annonce maintenant que le reproduction interdite intéresse la télévision. Voilà.
Ça fait rêver de Koumlak et de noisettes. Et est-ce que vous avez... Il nous reste à peu près 5 minutes, donc on a le temps de prendre une ou deux questions. On a le droit ici quand on est dans ce... On ne le fait pas dans tous les débats. On n'a pas le droit quand on est au café littéraire. Mais ici, on a le droit. Donc, profitez-en. On vous passe des micros. Vous pouvez poser des questions à qui vous voulez, avec un micro qui ne marche pas ou un micro qui marche.
Sachez que c'est votre chance d'obtenir des noisettes à long terme. Donc bon, il faut la saisir.
Avez-vous des vies associatives, des vies personnelles probablement ?
On n'a pas de vie en fait, les auteurs n'ont pas de vie. Ils sont posés là, tu les sors du placard pour les salons, puis le reste du temps. Il y a des cintres spéciaux auteurs, tu vois. Est-ce que vous avez une vie associative ou moins
En tant qu'artiste, oui, je fais beaucoup de participation pour des associations, des choses comme ça. C'est des vies très prenantes, c'est des vies professions en fait. C'est des vies, il n'y a pas 8h midi, 2h, 5h, le week-end, les vacances, c'est tout le temps. Mais associatif, oui, forcément, je participe à des événements, à des choses comme ça, donc c'est non-stop. Après, les vies d'auteur, ça se fait quand on a le temps de travailler dans le train, dans les avions, dans partout, mais sinon le reste, c'est des vies professions. Voilà. Enfin, pour ce qui est de ma part, quoi.
Si tu demandais si on va des fois dans des salons, non, jamais. Et ouais, non, moi j'ai très très peu de vie à part les deux grosses dont on a déjà parlé, et puis familiale quoi. J'ai quand même réussi à avoir une famille, mais c'était limite. Hein.
Oui, en ce qui me concerne, j'ai un projet politique que j'essaye de promouvoir, de réforme politique. J'ai publié un livre pour décrire cette réforme qui s'appelle Reprendre ni sang ni dette, c'est-à-dire un livre que j'ai écrit sur un coup de sang. Pendant la campagne présidentielle là, qui nous a donné le président que vous connaissez, du coup je milite pas mal. Enfin, je rencontre beaucoup d'associations, par exemple les Verts, les francs-maçons, enfin tous ceux qui ont été intéressés par l'idée de cette réforme et qui veulent que je leur en dise plus. Et que je leur explique comment ça fonctionne et comment, voilà. Donc, d'ailleurs, comme je vois que la mayonnaise prend, je me dis que dans les années qui vont venir, je vais passer une partie importante de mon temps à promouvoir ce projet de réforme des finances publiques, en réalité. Voilà. Donc, ça n'a rien à voir du tout avec la littérature, mais le support est quand même un livre. Et ce qu'il y a... m'a permis de commencer à populariser cette idée de réforme, c'est quand même un livre. Pardon ? Non, je suis à moi-même mon propre nègre. Mais ah,
vous ne croyez pas si bien dire.
Les vrais livres ont été écrits par mon collègue. Là.
Ça, l'horreur totale pour un nègre, c'est un livre politique, parce que généralement, l'homme politique que vous voyez est quelqu'un d'horriblement formaté par l'ENA. L'ENA, c'est la pire chose qui nous soit jamais arrivée dans l'histoire de France. C'est des gens qui raisonnent en trois points systématiquement et qui ne peuvent pas raisonner autrement qu'en trois points. Thèse, antithèse, synthèse, grand 2, grand 3, grand 2, grand 3, tout ça, je t'ai expliqué. Alors, premièrement, c'est épouvantable. Donc, en fait, ils voudraient concevoir leur bouquin en trois points. Ils ont une langue de bois monstrueuse. Ils ont des phrases de 250 lignes sans virgule. C'est très très difficile d'écrire un bouquin de politique. Leur ego est surgonflé. C'est-à-dire que dès qu'on écrit quelque chose, ben c'est moins bien que ce qu'ils auraient fait, mais ils n'ont pas le temps. C'est non vraiment un bouquin de politique, je ne vous le conseille pas si un jour vous êtes nègre. C'est pas bien du tout. Et le plus beau que j'ai eu, pour l'anecdote quand même, bon, je ne cite pas de ministère, mais j'avais écrit pour une très grosse maison d'édition un bouquin pour un type qui était ministre en place et qui disait qu'il allait être président de la République dans les quelques mois. Bon, plus personne ne connaît son nom aujourd'hui. Et en fait, j'ai reçu à la fin du travail un chèque du ministère. Et donc j'appelle l'éditeur, je lui dis, mais c'est bizarre, on me paye avec mes impôts, c'est quand même très très bizarre. Et en fait, oui, c'était passé en frais de com. Donc le type passait en frais de com son bouquin, son petit bouquin comme ça, un petit pamphlet politique, tout ça. Donc méfiez-vous des politiques, n'écrivez pas pour eux.
La même anecdote, j'ai joué pour le ministre de l'Intérieur il y a quelques années, ils m'ont payé au black. Ouais. Je vous assure que c'est vrai. J'ai vu le directeur du cabinet, il m'a lâché des billets, je suis reparti avec une liasse comme ça dans ma poche. J'ai dit, ah bon, mais j'ai bien mangé, je suis parti du ministère là-bas. Je vous jure que c'est vrai, voilà. Donc, merci, merci, messieurs, dames.
Bon, vous avez vu qu'ils ont énormément de choses à dire. On aimerait bien prolonger la discussion avec eux. Mais vous pouvez avoir le plaisir de la prolonger en lisant leurs livres, qui sont sous la bulle du livre. Et éventuellement, ils accepteront peut-être de continuer la discussion en vous les dédicaçant. En tout cas, nous avons passé un très bon moment avec eux et nous les remercions. Et nous vous souhaitons une bonne poursuite. Merci.